stop you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi, ce soir, Anna Segalevich, Sophie Bourdet, Laurent Burry, pour parler ensemble de Macbeth Underworld, nouvel opéra de Pascal Dussapin, un livre, Domenico Scarlatti, un livre de Martin Mirabel, Actes Sud, et un disque Scarlatti, 52 sonates gravées par Luca de Bargue. Un autre disque sera le coup de cœur d'Anna Segalevich, des sonates pour piano de Mozart, par Anne Kefelec. Nous ouvrons cette dispute avec Macbeth Underworld, nouvel opéra de Pascal Dussapin créé à la Monnaie il y a quelques semaines, disponible en ligne sur le site de l'opéra bruxellois. L'opéra qui sera repris en mars à l'Opéra Comique, coproducteur de cette création, puis à Rouen au mois de mai. Le livret est signé Frédéric Boyer, d'après Macbeth de Shakespeare. La mise en scène signée Thomas Joly, la direction musicale assurée par Alain Altinoglou. Un premier tour de table avant de parler d'abord peut-être de mise en scène, puis de musique ou inversement. Premier tour de table pour dire d'une première part que Sophie Bourdet est la seule à l'avoir vue depuis la salle. Vous l'avez revue ?
Je l'ai revue.
Très bien, vous avez bien fait votre travail. votre sentiment sur cette œuvre, au-delà de la question de la captation que nous évoquerons ?
Eh bien, je suis très admirative de la façon dont Frédéric Boyer et Pascal Dussapin ont renouvelé le mythe shakespearien, ont su le faire, et par le travail d'équipe qui s'est organisé autour du livret et de la musique, avec le metteur en scène et le directeur musical.
Bon, alors c'est un grand satisfait, c'est
tout à fait.
Anna Segalevich.
Alors moi j'ai senti beaucoup de puissance, à la fois musicale, dramatique, enfin dramatique de la part des chanteurs et en incarnation. J'ai eu plus de mal avec la narration, en fait, du livret, justement.
Laurent Burry.
Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un très beau spectacle et une œuvre dont on se dit qu'elle a des chances de s'inscrire au répertoire.
Ce qui n'est pas si souvent le cas. Nous en parlons évidemment à chaque fois qu'une création d'opéra se voit le jour. Parlons de livret, Laurent Burry, qu'est-ce qui reste de Macbeth dans la vision, dans le livret de Frédéric Boyer ?
Il en reste énormément de choses, il en reste tout l'essentiel, je dirais. Mais évidemment, dans un opéra contemporain, on ne pratique plus la narration linéaire. Donc le travail qui a été fait sur
évidemment,
le...
Évidemment, on fait ce qu'on veut surtout.
Évidemment,
hein.
C'est devenu très rare en tout cas.
Bon, c'est pas une obligation.
Non, certes voilà. Non. Le travail qui a été fait sur le texte de Shakespeare a consisté à réutiliser énormément de vrais morceaux de Shakespeare, si j'ose dire. Simplement, on y a ajouté des choses, on y a ajouté parfois des emprunts à Hamlet, ou aussi beaucoup des vers extraits de poèmes de E.E. Cummings, qui est un poète américain qu'aiment beaucoup les compositeurs, je pense que Pierre Boulez, par exemple, s'y était intéressé. Et tout cela est un peu remélangé dans un ordre qui n'est pas exactement celui de Shakespeare. Ça m'a fait penser un peu au travail qui avait été accompli sur les trois sœurs de Tchekhov pour l'opéra de Peter Hotvoss, où on retrouvait Tchekhov, mais dans un ordre différent, avec quelquefois des choses qui reviennent, qui sont répétées. Et donc, je pense que si on a déjà une connaissance préalable du Macbeth de Shakespeare ou de Verdi, on suit sans trop de difficultés. Après, je ne sais pas ce que des spectateurs qui arriveraient complètement vierges pourraient vraiment saisir, ou alors du moins à la première écoute, à la première représentation, on a peut-être un peu de mal à suivre tout, mais bon, après, chacun est libre de faire le travail préparatoire.
Alors justement, restons un instant sur cette question, on va un peu serrer les questions concernant cette création. Pour celles et ceux qui vont vouloir regarder cette captation en ligne, pour celles et ceux qui pourront le voir à Paris ou à Rouen, Anna Segalevich, pardon, vous disiez que ça vous posait problème quand même, cette narration.
Oui, moi je trouve que c'est pas du tout évident. En fait, j'aime beaucoup l'idée, que je trouve belle en effet, parce que ça fonctionne vraiment en fait de deux façons différentes. Il y a à la fois les moments un peu clés qui se jouent là de façon plutôt chronologique. D'ailleurs, on suit jusqu'à la fin. Je ne dévoilerai pas la fin de Macbeth, même si beaucoup de gens la connaissent, mais peu importe. Donc on suit en tout cas les événements clés, les meurtres, les trahisons, etc. Et puis on a, et c'est très important dans le spectacle, et c'est de ça dont se dégage l'ambiance la plus prégnante, je dirais, et qui est assez forte hein, d'ailleurs, et musicalement et scéniquement, qui est une sorte, c'est un peu une sorte de Macbeth aux enfers, où on a vraiment le couple là qui est très caractérisé de Macbeth et donc de Lady Macbeth, qui sont, alors est-ce qu'ils sont dans leur château? Oui, ils sont dans leur château, mais qui est leur enfer, qui est leur cauchemar? Est-ce qu'on est dans les limbes? On sait pas trop. Et en fait, ils revivent les éléments de leur crime,
alors,
ils revivent
leur tragique forfait. Buré, oui.
Oui, alors peut-être qu'on l'a déjà vu, mais je trouve que c'est assez, pour le coup, c'est assez bien fait.
Plutôt.
Et que les scènes, les unes, si on prend les scènes les unes indépendamment les unes des autres, ça fonctionne très bien et il y a une vraie puissance qui se dégage, une atmosphère très, très forte qui se dégage de la scène.
Parce qu'on rappelle qu'effectivement, il y a cette volonté de pouvoir et qu'il y a quelques meurtres à commettre pour accéder au trône et que ça va rendre fou ce bon Macbeth, pour résumer très rapidement. Sophie Bourdesque, vous avez eu problème avec le livret? Vous étiez plutôt enthousiaste?
Alors, je connais très bien et l'opéra de Verdi et la pièce de Shakespeare, donc j'ai pas eu vraiment de problème. Ça aide beaucoup, ça je dois reconnaître qu'effectivement, Laurent et Anna ont raison, un travail préparatoire peut aider à comprendre le livret. Quand on connaît bien le mythe shakespearien, moi j'ai été très intéressée par deux choses, notamment par ce parti pris de montrer le couple Macbeth, qui est un couple maudit, comme un couple d'amoureux. Ce qui n'est pas forcément, on met pas forcément l'accent dessus d'habitude. Et ensuite, par la figure de cet enfant mort, qui est au cœur de cette réécriture. Et cet enfant mort, c'est plein d'enfants morts. C'est les enfants qui ont assassiné le couple Macbeth. C'est l'enfant qui n'est jamais né ou qui n'a peut-être pas vécu très longtemps chez eux. C'est un enfant qui les obsède et qui était un peu en filigrane de l'opéra de Verdi et encore plus de la pièce de Shakespeare et qui est exploité là d'une façon que je trouve très intéressante.
Et aussi dans le Richard III de Thomas Joly.
De Thomas Joly, exactement. Et ça, on sent
saisons.
Vraiment le. Oui, exactement. C'est ce que je notais justement. On le sent très fort, ça, l'ombre de l'enfant qui plane, qui est leur. Leur drame.
Le point noir.
Et leur point noir. Qui les pousse à la tragédie.
Alors justement, sur la mise en scène, puisqu'on on en vient là, quel parti pris à la fois de scénographie, et donc, entendu, ils sont aux enfers peut-être déjà, peut-être se remémorent-ils les choses, mais à quoi ça ressemble, Anna Sigalevitch?
À quoi ça ressemble? Pardon. Ça ressemble à une esthétique qui est assez gothique. Il y a un décor qui est imposant. Alors, je dis vraiment dans la limite de ce que j'ai vu, parce que
en captation,
c'est très sombre. On sent qu'il y a un noir qui est profond sur le plateau, qu'il y a un jeu de lumière qui est très précis, dont on ne goûte pas tout, franchement, avec la captation. Il y a des choses que j'avais du mal à saisir. En tout cas, on a une sorte de forêt d'arbres morts avec des branches qui sont presque comme des squelettes, comme des cadavres. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement morbide dans cette forêt. C'est un décor qui est tournant, qui va se transformer aussi un petit peu en château, mais pas de façon complètement réaliste et concrète. Hein.
Des évocations, on va dire, plutôt des images.
C'est avec un escalier à double volet, avec la chambre un petit peu du couple, avec quelques éléments, mais qui sont plus évoqués que clairement. Il y a une chose qui est importante, c'est que c'est assez vertical comme décor. Il y a quelque chose d'assez gothique avec les barreaux qu'on voit très bien, les barreaux des escaliers, les barreaux qui sont comme des cages et les néons qu'utilise souvent Thomas Joly dans ses mises en scène, des néons qui sont verticaux, qui sont blancs au départ. Il y a beaucoup de noir et blanc et peu à peu le rouge va apparaître et va réellement envahir tout le plateau, avec des personnages qui sont, eux, tous de blanc vêtus, presque tous, hein, à part un ou deux, mais tous de blanc vêtus avec des costumes un peu néo-victoriens, je dirais, néo-élisabétain, je veux dire.
Un peu japonais aussi.
Un peu japonais, enfin, c'est un mélange. Moi, j'y ai vu aussi du Tim Burton dans cet univers, très, très clairement, avec les visages blancs, grimés, des perruques blanches. C'est une esthétique qui est tout à fait cohérente, pas nouvelle ni chez Thomas Joly ni ailleurs, mais qui, je trouve, est tout à fait cohérente et fait sens avec, avec
ici,
le propos
oui.
et le livret.
Vu de la salle, Sophie Bourdet, cette mise en scène, cette scénographie, cet impact qu'on imagine, nous, le regardant sur l'écran.
Oui, c'est beaucoup plus fort. Le problème de la captation, c'est que finalement, on perd tout le travail d'Antoine Travers sur les lumières, qui est remarquable, et ça éteint un peu cette magie qui sourdait du plateau quand on était à la Monnaie. Donc oui, ça vaut mieux le voir en vrai, si j'ose dire.
Sur le travail de direction d'acteur, peut-être un mot, Laurent Burey, d'acteur.
Oui,
de chanteur.
On peut dire que ce spectacle bénéficie de la présence de chanteurs-acteurs remarquables. Georg Nigel, qui était encore à Aix-en-Provence cet été, qui est quelqu'un avec qui Pascal Du Sapin a déjà beaucoup travaillé et qui est présent presque du début à la fin du spectacle, qui est extrêmement investi. Je pense que Pascal Du Sapin a dit qu'il n'imaginait pas quelqu'un d'autre chantant le rôle. Alors on espère quand même qu'il y aura d'autres titulaires un jour, sinon c'est un peu gênant pour l'œuvre. Magdalena Kogena est aussi très présente dans le spectacle, dans une Lady Macbeth, on l'a dit, peut-être différente, moins cruelle, moins univoque, moins obsédée par le meurtre qu'on voit parfois le personnage. Donc de ce point de vue-là, il y a vraiment un travail tout à fait remarquable qui a été fait. Moi, j'ai été aussi sensible au fait que ce spectacle procède par symbole, on n'a pas besoin de voir du sang couler réellement sur scène comme ça a pu se faire ailleurs, alors que le sang est présent dès le départ, puisque les meurtres ont été déjà commis quand le spectacle commence, et les premiers mots de la pièce proprement dite, enfin il y a un prologue, mais les premiers mots sont prononcés par Banquo, déjà assassiné par Macbeth.
Bon, il sera peut-être temps d'entendre un peu de musique de cet opéra de Pascal Du Sapin, cette séquence où les Macbeth sont... On est juste après la mort de Duncan.
How goes the night?
How goes the night?
Night never goes.
What is the night?
Lost.
Almost at odds with morning, which is which? What's done is done, is done, is done.
And now you are, and now a mystery which will never happen again.
Not hurt or spent, where our desire is got without content. It is safer to be that which we destroy than by distraction when in doubtful joy. What's done is done, is done, is done, is done, is done.
Terrible dreams that shake us nightly. Better be with the dead, whom we to gain our peace have sent to peace. Better be with the dead than on the torture of them night to lie in restless ecstasy.
Voilà pour cet extrait de Macbeth Underworld qu'on peut voir dans son intégralité, évidemment, cette production bruxelloise sur le site internet de la Monnaie. Alors sur cette partition, Laurent Burey, pour commencer.
Alors c'est une partition, à moins que ce soit moi qui m'habitue, mais je trouve que elle n'a rien d'agressif pour les oreilles. Non, mais je dis ça, ça paraît naïf, mais la musique contemporaine a tellement mauvaise presse aux yeux, enfin aux oreilles plutôt, des gens qui n'en sont pas habitués, que là, je trouve que du Sapin atteint comme une sorte de classicisme, sans qu'il s'agisse de pastiche du tout. Sa musique n'est pas du tout passéiste, mais je trouve qu'on peut la recevoir très facilement. Je ne sais pas ce que mes collègues ont eu.
Eh bien, on va leur demander.
Certainement, oui, peut-être que ce serait une bonne idée.
Tout de suite, Anna Segalevich.
Ah oui, on la reçoit tout à fait facilement. C'est encore une fois, comme du Sapin écrit depuis longtemps, d'une richesse immense. Il y a une palette sonore immense. On va vraiment du pianissimo au fortissimo hurlant, avec des instruments qui sont très beaux. Par exemple, cette archilute qui intervient par moments, c'est d'une élégance, d'une délicatesse. Ça, c'est très juste scéniquement à chaque fois que ça intervient. Il y a plein de choses. Il y a à un moment une sorte de fiddle. Il y a du folklore, il y a beaucoup de percussions, différentes formes de percussions, il y a des cuivres qui sont magnifiques aussi. Enfin, c'est une partition extrêmement riche, extrêmement puissante et surtout très dramatique. Mais alors là, je ne sais pas si c'est dû au livret, mais que j'ai senti aussi un tout petit peu séquencé, mais pas comme une grande arche qu'on suit de début à la fin. C'est-à-dire que chaque scène est très très bien mise en musique, tout est beau, mais dans la continuité, j'ai pas été emportée.
Vous n'avez pas un arc narratif mélodramatique.
Non, mais c'est peut-être parce que je l'ai vu en captation, mais je n'ai pas été saisie de bout en bout. Même si je trouve que oui, bien sûr, c'est d'une grande beauté, d'une grande richesse formelle, avec plein de différents plans qui sont utilisés, la richesse des timbres et puis l'écriture vocale qui est aussi tout à fait impressionnante, où il utilise une diversité de registres pour les chanteurs qui vont quand même dans leurs extrêmes, mais pour eux, c'est-à-dire qu'ils les aident tout le temps. C'est fait pour des gens. Enfin, c'est pas du tout théorique en fait. On se dit pas tiens, il coche toutes les cases avec le Sprechgesang, le pianissimo, le forte, dans les graves, dans les aigus. Non, c'est vraiment une vocalité qui sied à tous les chanteurs et qui leur donne beaucoup de chair à tous.
Sophie Bourdet.
Moi, je suis pas d'accord sur le côté séquencé. Pour moi, c'est une partition au contraire très organique, tant du point de vue de l'écriture orchestrale que vocale, qui est un mouvement constant, qui nous surprend sans arrêt et qui nous accompagne et nous enveloppe. J'ai jamais eu l'impression d'une rupture. Au contraire, on est presque bercé, même dans les moments de grande violence.
Je me suis mal exprimée. Je voulais dire qu'il y avait des ventres mous, en fait, que j'ai pas été prise de bout en bout.
Ah, alors je ne les ai pas entendus. C'est moi, j'ai vraiment été transporté par cette partition, mais comme je l'avais été par celle de Pantésilée, qui est le précédent opéra de Pascal du Sapin. Et c'est vrai que l'écriture vocale est tout à fait passionnante. On a entendu beaucoup d'écritures un peu debussistes ces temps-ci. Là, on a vraiment une écriture très variée, très inventive, très transformiste. On est constamment surpris, c'est un bonheur.
Et on l'a évoqué, les chanteurs en tant qu'acteurs, mais évoquons tout de même évidemment leur travail vocal, Laurent Buret.
Alors ce qui est remarquable, donc, c'est, on l'a dit, la façon dont le rôle de Macbeth exige du baryton qu'il passe constamment en voix de fossé, enfin constamment, très souvent, en tout cas. On exploite absolument toutes les possibilités de sa voix. Moi j'ai aussi remarqué les voix des trois sorcières, qui sont bien distinctes, qui ont des registres bien bien différenciés, dont une qui se promène constamment dans le suraigu, mais la façon dont les voix sont mariées ensemble est également extrêmement intéressante et agréable à entendre malgré tout. La façon dont la partition est écrite est tout à fait convaincante.
Sophie Bourdet, sur les interprètes, sur le plateau vocal.
Alors moi j'ai beaucoup aimé Magdalena Kojena, qui est une Lady Macbeth très très émouvante, très sensible. En fait, on sent qu'il a envie de justifier ce qu'elle a fait, mais de la comprendre. Mmh. Et ça se sent dans la manière dont elle l'interprète. Et l'avantage de la captation par rapport à la scène, pour le coup, c'est de nous montrer à quel point les interprètes sont engagés dans leurs personnages, à quel point ils les vivent. Et Georg Nigel, moi j'admire la plasticité vocale de ce chanteur qui a l'air capable de tout faire. L'interprétation est vraiment remarquable.
Et Anna Segalevich, pour conclure cette séquence.
Je suis complètement d'accord et toute la distribution est magnifique, vraiment, que ce soit l'enfant, que ce soit tous les autres rôles, il y a une homogénéité, un engagement qui est tout à fait saisissant. Ouais.
Mais pour le coup, on aura quand même le même plateau vocal à l'Opéra Comique au mois de mars.
Sauf Lady Macbeth.
Ah bon ?
Il me semblait. Je me trompe.
J'ose espérer que ce ne soit pas le cas pour une création, une commande conjointe de l'Opéra Comique et surtout. Vu la façon dont Pascal du Sapin écrit pour eux aussi.
Bah, il faut dire un dernier mot aussi de la direction musicale d'Anna.
Oh pardon, oh là là, parce que le temps a filé, il y a tellement de choses à dire sur cet opéra. Moi, je suis un fan d'Altinoglu et ça va pas s'arrêter avec cette production.
Il a été déjà plusieurs fois le partenaire de Pascal Dussapin, ils sont vraiment complices tous les deux et il fait lui aussi il fait un travail phénoménal. Il est partie prenante de la réussite du spectacle.
Vraiment, Anna, vraiment, Laurent, je signe et contre-signe, pardon. J'ai failli l'oublier, ce qui aurait été quand même un con. Macbeth Underworld de Pascal Dussapin, livré Frédéric Boyer, mise en scène Thomas Joly, direction musicale Alain Altinoglu. C'est disponible donc en ligne sur le site de La Monnaie jusqu'au 27 novembre. Et puis on verra cette production du 25 au 31 mars à l'Opéra Comique. Puis les 12 et 14 mai à l'Opéra de Rouen-Normandie. Et puis pour en savoir un peu plus sur la mise en scène, vous pouvez réécouter la grande table d'hier dont Thomas Joly était l'invité, à podcaster sur le site de France Culture. À suivre, une double page de Scarlatti avec une biographie, un quadruple album et puis un peu plus tard un coup de cœur d'Anna Sigalevitch pour Anne Kefelek.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec, une fois n'est pas coutume, un livre. Et moi, je suis pour qu'il n'y ait pas de coutume. C'est celui de Martin Mirabel. Très courte biographie, sobrement intitulée Domenico Scarlatti, publiée chez Actes Sud. Scarlatti, à la fois célèbre et méconnu. Est-ce qu'il a cherché à effacer ses traces? Est-ce que d'autres s'en sont chargés? Bon, on va dire tout de suite que le mystère reste quand même largement entier. On a très peu de traces manuscrites de lui. Aucune de partition. On l'évoquera sans doute. Aucune correspondance. Mais on a quand même 555 sonates qui nous ont arrivées. On sait qu'il n'a presque jamais joué en concert, qu'il s'est réservé pour le Salon de la Reine. Pourquoi cette discrétion? Pourquoi cette production? On va voir comment Martin Mirabel y répond. On va pas bouder notre plaisir d'écouter un premier extrait du quadruple album de Lucas Debargue, dont on parlera un peu plus tard dans cette émission, la K27, K pour Kirkpatrick, K27 en si mineur.
Thank you.
ce premier extrait du disque de Luca de Barg dont nous parlerons tout à l'heure, puisque pour l'instant nous parlons de cette biographie, Domenico Scarlatti, par Martin Mirabel chez Actes Sud. Premier sentiment sur celle-ci, Anna Segalevich.
Premier sentiment, que... Il y a peu de choses, effectivement. C'est un puzzle avec quelques pièces. Et il a mis de la chair autour, une chair qui est très personnelle, et donc ça m'a plu.
Laurent Buret.
Disons, comme on ne sait à peu près rien de la vie privée de Scarlatti, il faut bien inventer quelque chose, même dans un livre très court. Et donc, c'est une belle évocation de l'époque, des lieux où a vécu Scarlatti.
Bon, mais pas plus. Bon, enfin, j'ai entendu ça, mais je ne vous l'avais pas dit. Sophie Bourdet.
Moi, j'ai apprécié qu'en plus de la biographie, on ait quand même un développement assez conséquent sur la redécouverte de Scarlatti.
Absolument.
Et sur les interprètes qui l'ont permise, au clavecin d'abord, au piano ensuite. Et j'ai trouvé le livre très scarlatien, d'une certaine manière, puisque, en fait, on tourne autour du personnage, on y revient toujours. Et c'est extrêmement coloré et imagé, comme les sonates de Scarlatti.
Oui. Alors, en effet, on se dit, il meurt bien longtemps avant la fin du livre, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai qu'il y a quand même cette deuxième partie sur cette redécouverte, sur les différents interprètes, sur Scott Ross, bien sûr, mais sur d'autres aussi, enfin, sur clavecin, sur piano, enfin, il y a plus qu'une biographie, puis il s'agit de tourner autour d'un mystère avec ce motif de la répétition qui, évidemment, là, dès le prologue, ce n'est pas la répétition de 555 fois la même chose, c'est 555 fois la même chose répétée différemment, dit-il des sonates. Quoi, vous n'avez pas compris ce
non,
que vous voulez dire?
Non, on m'explique, n'est-ce pas?
Ah bon? Vous avez lu le livre?
Ah oui.
Buret, vous m'inquiétez. Ah oui, non, mais je sais, je vous le traquine. Je me doute bien que vous l'avez lu. Ah ben, pour moi, ça m'est apparu de façon assez limpide en le lisant, justement.
Et il commence par dire une chose, d'ailleurs, dans le livre que je trouve très, très intéressante. Il dit, le père, Alessandro, a convoqué le microcosme dans la grande forme de l'opéra, et le fils convoquera le macrocosme dans la petite forme de la sonate. Moi, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que, d'abord, ça part d'un amour pour les sonates et cette sensibilité toute personnelle qu'il a. Et en effet, comme le dit Laurent, on voit vraiment toute l'Italie et toute l'Espagne de cette époque-là. On sent qu'il aime la peinture. Il parle de Velázquez, il parle de de Murillo. Il parle des Azulejos en évoquant le fait qu'au Portugal, voilà, c'est ces motifs répétés, etc. Laurent Buret l'a placé au ciel. Bon, vous trouvez ça peut-être un peu cucu, mais moi, je trouve ça pas mal.
Non, soit il comprend pas, soit il se moque, c'est tout. Mais bon. C'est son rapport à ce livre.
Peu importe. En tout cas, moi, ça m'a plu. Alors après, par moments, c'est vrai qu'il fantasme un peu les choses.
Ah oui.
Par exemple, quand il dit, là, je me dis, quand même, il est gonflé. Quand il dit, il arrive à Venise. Bon, alors, on sait rien, en fait, de Venise. Mais il a sûrement toujours trouvé ça très beau parce que Venise est belle et que machin. Donc, c'est sûr qu'il invente. Il a sa sensibilité. C'est son goût pour les lieux. C'est son goût pour cette musique. Et il met ensemble, à sa sauce, avec gourmandise et avec sensualité, le mythe scarlatien. Sa façon. Moi, ça me plaît parce que comme on sait peu de choses, il y a quand même une chose qui traite extrêmement bien et qui est profondément touchante, c'est le rapport avec Maria Barbara, qui était donc l'infante du Portugal, qu'il a rencontré par l'ambassadeur du Portugal à Rome, qu'il a fait ensuite le père de Maria Barbara, donc l'a fait venir à Lisbonne. Et puis, cette fille qu'il a vue presque naître, qui était une claveciniste hors pair, en fait, on comprend que les sonates, il les a écrites pour elle, sous son inspiration, sous son influence. Et elle était aussi très maligne, parce que donc Scarlatti était un joueur invétéré, et donc elle en avait assez de payer ses dettes. Elle a dit, ok, je paye vos dettes, mais dans ce cas-là, on échange, je paye vos dettes et vous écrivez les sonates. Bon, évidemment,
bon, il le fait faire par un autre.
C'est Solaire, le Padre Solaire. Mais en tout cas, voilà. Et pour ça, c'est très... l'histoire que ça raconte est très belle.
Dubitatif, Laurent Buret.
Non, simplement, cette collection chez Actes Sud de biographie courte, d'habitude, est frustrante par l'effet inverse. D'habitude, elle porte sur des compositeurs plus proches de nous, qu'on connaît très bien, dont on connaît presque la vie au jour le jour. Et là, les auteurs sont obligés de sélectionner, de délaguer énormément pour arriver à tenir dans un texte relativement bref.
Ah bah oui,
là, c'est exactement le contraire. On part de quelqu'un dont on ne sait à peu près rien, sauf la date de naissance, la date de mort, et très peu de choses entre les deux.
L'ascendance,
et donc,
le mariage,
il faut... Tout est presque à inventer. Au passage, je rappellerai que Scarlatti n'a pas écrit que des sonates, même si ces sonates sont évidemment ses œuvres les plus
connues. C'est dit dans le livre.
Oui, non, mais je le dis parce que personne ne l'a encore dit ici, c'est tout. Bien sûr qu'il le dit dans le livre.
Oh, on croyait que vous critiquiez encore Martin Mirabel.
Non, j'aurais d'autres choses à dire contre lui plus tard.
Simplement, débêché, mais bon.
Je rappelle juste que le livre parle aussi des œuvres vocales, notamment, parce que le Scarlatti fils a aussi écrit des opéras, il a aussi écrit des œuvres religieuses où on chante, voilà.
Ouais, notamment sur la fin.
Mais
Sophie Bordet.
Il en parle justement parce que la première partie du livre, avant Maria Barbara, c'est papa, c'est Alessandro Scarlatti, qui est un grand compositeur d'opéra. Et finalement, ce qu'il nous raconte, c'est comment Domenico va se construire en fonction, et pas contre, parce que manifestement, il n'y a pas vraiment d'opposition père-fils, mais va se construire en fonction du père et aller de l'opéra vers la sonate en laissant très peu d'opéra pour des tas de raisons. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles, entre autres. Mais c'est ça qui nous raconte dans toute la première partie et comment justement Domenico, après la mort de son père, se sent peut-être suffisamment libre pour s'épancher dans le genre de la sonate.
Oui, non, mais enfin, c'est, sur ce court volume, c'est une suite d'interprétations, de projections,
mais pas absurde,
de fantasmes, alors qu'ils tiennent. Comme tout raisonnement, un peu, et c'est étayé selon lui, mais ne serait-ce que le testament, il en déduit tout un tas de choses sur trois virgules placées à un drôle d'endroit, alors que c'est un testament classique de l'époque, mais c'est ça qui, moi, je trouvais effectivement faisait la chair. On sent il y a un cœur qui bat dans ce livre, Anna Segalevich.
Oui, c'est exactement ça. Il y a de la chair, il y a de la sensualité. Même la façon dont il parle de Scott Ross, c'est très très beau quand il raconte.
J'avais pas réalisé qu'il y avait un jeu de mots énorme, le carrosse, mais bon, c'est en le relisant à l'instant que je découvre le carrosse.
Comment vas-tu?
Ah oui.
Idiot de poil.
Voilà, c'est un peu ça.
D'accord, oui, voilà.
Je pense qu'il met des blagues en plus qu'on voit pas.
Voilà, bon, donc il faut raconter un petit peu, Scott Ross, qui a enregistré les 555 sonates au clavecin, qui était américain.
Pour partir dans cette maison.
Voilà. Donc, né en 51 à Pittsburgh, etc. Puis vient en France. Et puis, il se lie d'amitié avec une femme qui s'appelle Christine de Mangel, qui a ce château d'Assas, à côté de Montpellier. Elle lui dit, mais viens, enfin, venez, je ne sais pas, essayez...
Come
to try my clavecin. Donc, du 18e. Donc, oui, harpsichord, pardon. Et donc, elle vient. Donc, Scott Ross vient. Puis là, il découvre aussi tout un monde. Et là, Martin Mirabel fait un parallèle entre Scott Ross aussi et Scarlatti, parce que Scott Ross trouve une famille d'adoption avec cette famille qui a ce château d'Assas. Bon, tout ça est quand même, je trouve, absolument charmant et très joli. Et là aussi, il croque Scott Ross avec de la sensualité, avec de la vie, comme on ne le sait pas forcément. Et les autres interprètes, alors je trouve qu'il développe un peu vite. Marcel Meyers, ça va un peu vite. Horowitz, ça va très vite.
C'est le format de la collection, disait Laurent Bureau. Elle est un reproche. Vous avez droit à un reproche.
Oui, je trouvais qu'il y avait quand même des petites préciosités d'écriture, des choses quelquefois il y a des choses que j'ai pas comprises, mais c'est pas seulement l'histoire dont on a parlé tout à l'heure.
Variation.
Dire que à la fin le roi qui assainit les égouts à Madrid et il a l'air de trouver ça un peu dommage. Madrid va sentir bon, on n'arrête pas le progrès. Il dit ça comme si c'était une critique contre le roi. Je suis désolé, moi je trouve pas ça mal que Madrid ne sente plus la merde comme il l'a dit avant.
Bon, c'est ça vos réserves. Ça va encore. Sophie Bourdet.
Moi, j'ai trouvé que c'était un vrai plaisir de lecture parce qu'il y avait un bonheur d'écriture qui était tout à fait communicatif. Et moi, je suis reconnaissante aussi d'avoir donné une très belle définition des sonates. Est-ce qu'on peut lire un petit extrait ?
Allons-y.
Où il nous parle d'un monde miniature, l'infiniment grand dans l'infiniment petit, un télescope dans lequel on voit se mouvoir les planètes dans un univers en expansion, de la vie condensée et de la fantaisie cadenassée par les mathématiques. Les sonates recèlent une rage contenue, tenue, pressurisée, fierté, cambrure, figure géométrique, poudroiement d'étoiles.
On est obligé de s'arrêter là-dessus. Concernant ce livre, Domenico Scarlatti de Martin Mirabel, c'est publié chez Actes Sud.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec ce deuxième temps de notre moment Scarlatti, Lucas Debargue, 28 ans, qui ne cesse de s'affirmer alors qu'il ne s'est lancé dans la carrière qu'à 20 ans, rappelons-le, un âge quand même canonique pour devenir virtuose. Il revient avec ce quadruple album dans lequel il a gravé 52 sonates de Scarlatti. On écoute la K193 en mi bémol majeur.
Thank you.
quadruple CD pour contenir 52 sonates de Scarlatti gravées par Luca de Bach chez Sony Classical. Peut-être un mot quand même sur la composition de ce programme, puisque quand on a 555 sonates à sa disposition, Sophie Bourdet, faire un choix, c'est forcément vouloir dire quelque chose.
Oui.
Vouloir raconter une histoire.
Alors je ne sais pas s'il a voulu raconter une histoire. Lui dit qu'il a plutôt voulu présenter un panorama diversifié des sonates de Scarlatti en faisant notamment écouter celles qui étaient moins connues que les autres et qu'il a cherché aussi une progression harmonique qui serait la plus douce et la plus naturelle possible. Donc il les a pariées. Alors souvent elles fonctionnent par paires chez Scarlatti. Il a gardé certaines paires telles qu'elles étaient.
Elle comprend qu'elles étaient, parce que là encore, c'est un mystère.
Mais c'est pour ça aussi qu'il s'est senti très libre. Ouais. Et d'autres paires, c'était selon les humeurs, les tonalités. Scarlatti, lui, faisait ses paires souvent en alternant tempo rapide, tempo lent. Lucas Debargue n'a pas forcément fait ça. Il a construit un chemin en 52 sonates, une par semaine à peu près. On a une année scarlatienne sur ce coffret.
Ça va prendre beaucoup de temps par semaine si on n'en écoute qu'une par semaine.
Et a priori, oui. Il n'a pas l'air décidé à s'arrêter là.
Oui, non. Il est complètement obsédé par Scarlatti. Lucas Debargue, il ne parle que ça, il mange ça, il dort ça, il rêve ça, j'imagine.
Depuis son premier album.
Et puis cet été, l'ayant vu aussi à la Roglanteron, il ne cesse que de parler de cela. Ce petit tour de table que je n'ai pas encore fait, c'est maintenant convaincu par ce programme.
Tout à fait.
Anna Segalevich.
Oui.
Laurent Burry.
Moi, je ferai l'ayatollah. J'ai déjà ce qu'il faut, sauf le turban.
La longue barbe.
Voilà.
Je donne les images.
Hein. Oui, merci. Moi, j'ai un peu de mal avec Scarlatti au piano. Donc, l'objet est très joli. Lucas Debargue est un excellent pianiste, mais...
Alors, vous ne suivez pas Martin Mirabel, pour qui il y a des pièces, certaines de ces sonates qui sont plus avantageusement jouées au piano, d'autres plus avantageusement au clavecin. Pour vous, c'est clavecin?
Oui, disons, pour moi, il y en a qui passent mieux au piano que d'autres, mais il y en a certaines où j'entends une mazurka de Chopin, où j'entends du Debussy, mais j'entends pas forcément du Scarlatti. Tel que je...
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
À chacun son Scarlatti. Martin Mirabel a son Scarlatti dans son livre. Et moi, le Scarlatti que j'entends dans ma tête quand je n'écoute pas de disque, ça n'est pas un Scarlatti au piano.
C'est Scott Ross?
Plutôt. Alors, je sais que dans le livre, on nous dit que Scarlatti a eu accès à des pianofortés, mais enfin, pianofortés, c'est encore autre chose qu'un Besenderfer comme celui sur lequel Monsieur Debargue enregistrait. Donc, c'est vraiment une sonorité complètement autre. Bien. Même quand on n'utilise pas la pédale, même quand on joue très près du clavier, que sais-je, c'est autre chose.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un Besenderfer dont il n'utilise pas la pédale, où il se sert de l'acoustique naturelle de l'église où il a enregistré pour faire des effets uniquement avec les doigts, où il essaie quand même de respecter une certaine... littéralité de la partition.
Oui, sans doute, mais on ne fera pas d'un piano un clavecin.
Non, ça c'est vrai.
Non, mais est-ce souhaitable, si je puis dire, pardon, de mon point de vue.
Soit.
Ça n'engage que moi, mais je l'assume.
Alors, vous qui avez plus de goût pour ce quadruple album, Anna Segalevich, qu'on n'a pas encore entendu, si ce n'est d'un mot.
Oui, moi j'ai un réel goût pour cet album et je dirais qu'il y a aussi beaucoup de Scarlatti différents au piano. C'est-à-dire que la façon dont joue Lucas Debargue, ça n'a rien à voir avec la façon dont joue Horowitz ou Marcel Meyer ou certains, parce qu'il y a aussi Michelangeli qui en a enregistré certaines. Enfin, il y a beaucoup de gens, il y a Clara Askill, Ariérich, bon bref, on va pas commencer à citer tout le monde. Mais en tout cas, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans la proposition de Lucas Debargue, c'est qu'elle est radicale. Et c'est qu'on sent, je trouve, tout le côté expérimental de ses sonates. Alors là, en effet, pour l'album, il a enregistré à la Jesus Kirche, donc sans réverbération, avec réverbération, sans pédale. La semaine dernière, je l'ai écouté à la Philharmonie. Il jouait une dizaine de sonates. C'était sur un Steinway. Là, il mettait un peu de pédale, bien sûr, parce que l'acoustique n'est pas la même. Moi, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est que je trouve que, alors, il y a presque un côté M. Fitzemkite dans sa façon de jouer du Scarlatti. Alors, j'explique. J'explique. M. Fitzemkite, c'est une sorte de courant entre le baroque et le baroque et le classique. C'est en Allemagne, plutôt dans les années 1740, à partir de 1740, où en réaction aux Lumières, c'est la première fois que l'âme et les contrastes très forts sont étudiés, exposés avec beaucoup de différences rythmiques. Le grand représentant de ça, c'est Carl Friedrich Emanuel Bach. Alors c'est un petit peu après Scarlatti, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que pour moi, il joue ça comme ça, où on arrête avec la rationalité et c'est l'âme, le tempérament, la personnalité, les contrastes et la brusquerie qu'on a le droit de mettre à l'épreuve du clavier. Et pour moi, c'est vraiment ce que fait Lucas de Bari.
Alors après, c'est pour ça qu'il le fait sur un piano aussi, parce que le piano est nécessaire pour
complètement,
cela.
Parce qu'il y a quand même une richesse de timbres, une variété dans la façon dont il joue, avec des tempi qui sont par moments très étirés, par moments très rapides. Il y a une liberté de ton phénoménale.
Il explique aussi dans le livret, qui est très, très bien fait d'ailleurs.
Voilà, vraiment, il fait à peu près ce qu'il veut avec tout. Et il y a des moments où il y a beaucoup de rubato, et des moments où c'est très sec. Enfin, on sent qu'il est vraiment conduit par ce que lui inspire en direct cette musique. Et le côté improvisatif qu'il y avait sûrement dans ces sonates de Scarlatti, je trouve qu'on le sent très bien. Pour moi, c'est vraiment un très, 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 très bel album.
Pas plus convaincu, Laurent Burry.
Non, c'est un très bel objet aussi. Il y a de très jolies images sur les différents disques.
Oui, on retrouve les Azulejos.
On est au Portugal.
Bon, je crois que je vous en ferai pas plus dire là-dessus. Sophie Bourdet.
Ah, moi je renchéris. Et en plus, je trouve que ces pièces qui ne sont ni vraiment baroques, ni vraiment classiques, sont extrêmement modernes. Et pourquoi pas les jouer au piano? Ça leur va bien. Surtout quand c'est un pianiste comme Lucas Debar qui les joue avec ce jeu que je trouve très net, très nerveux, très sensible, avec une pression qui est subtilement dosée, beaucoup, beaucoup de nuances, et qui fait vraiment apparaître tout le petit théâtre que met Scarlatti dans ses sonates. Moi, j'ai été très, très convaincue, vraiment.
Pareillement.
C'est tout le principe de la transcription des morceaux que les compositeurs ont écrit pour tel instrument et qu'on transpose pour tel autre.
Et pourquoi pas ?
Ah, pourquoi pas, oui, mais on n'est pas obligé d'adhérer systématiquement.
Non, c'est vrai. Non,
vous n'adhérez pas.
Non.
Vous n'aimez pas le livre de Martin Amir. Vous n'aimez pas Scarlatti, en fait, ou...
Non, j'ai aimé du Sapin, quand même, au début.
Je n'ai pas tout détesté. Je n'ai pas dit que vous avez tout détesté, je parle de Scarlatti. Vous avez un problème avec Scarlatti ou...
Ah non.
Il faut pas qu'on y touche.
Au piano, oui.
Faut pas qu'on... Jacin, vous voulez dire.
Oh.
Vous avez fait un beau lapsus.
Non, j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai dit que j'avais un problème avec Scarlatti au
piano. Ah, pardon.
Ah bon.
Bon. Allez, un dernier mot positif, Anassé Galevitch.
Bah oui, notamment la découverte de certaines sonates que je n'avais jamais entendues au piano, parce qu'il fait aussi ça. Hein. Par exemple, je pense à la K443 en ré majeur. Je dis ça pour les gens qui veulent écouter, hein. Parce qu'évidemment c'est très abstrait. C'est difficile de s'y retrouver comme il y en a 50 devant, il y en a 555. Bon, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une bonne vingtaine de sonates dans cet enregistrement qui sont admirable, et on entend, en plus, on sent qu'il s'amuse parce qu'on entend le côté andalou par moment. On a l'impression que le piano frotte comme une guitare. Il joue avec toutes les possibilités du piano. Je dois dire que, à la Philharmonie, j'étais vraiment très, très impressionnée par les différentes couleurs, les pianissimo qu'il arrivait à tenir. Et c'était intéressant, je dois dire, parce que là, alors, vous, Laurent, c'est parce que vous n'aimez pas le...
Oui, c'est le principe.
Le principe,
c'est pas pour le pianiste.
Voilà. Mais je vais donc faire ma propre contradiction. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens...
On va vous laisser,
gens, Anna. Non, mais à la Philharmonie, les gens n'aimaient pas ce que proposait Lucas de Barque. Beaucoup, beaucoup de journalistes autour de moi. C'est quelqu'un de clivant qui propose des vrais...
Enfin,
il y a une radicalité.
Sa vie, au moins.
Mais voilà, sa vie, et puis, moi je trouve quelle intelligence et quel musicien et quel moyen technique, enfin tout quoi, quand même.
C'est, bon. C'est Sophie Bourdet qui va conclure cette séquence.
Il a les moyens de faire cette proposition et de nous y faire croire. Moi j'attends la suite, le coffret suivant avec les 52 autres.
Bon, plus 52.
Voilà.
Et puis il y a les concerts.
On va pas y arriver.
Entre-temps, Lausanne, 13 et 14 novembre pour entendre Lucas de Barque dans un programme Mozart. 7 décembre à Toulouse, programme Liszt et Shostakovich. Retour à la Philharmonie de Paris, ce sera avec Liszt le 9 décembre. C'était à la Rock d'Anteron. Il avait joué Scarlatti et Liszt et son Liszt était quand même extraordinaire. Alors là, il y a de l'orage, il y a des volcans, il y a beaucoup de choses. On l'entendra aussi le 14 février à Orléans. Et puis, il a une tournée suisse, figurez-vous, Lucas de Barque, avec l'Orchestre National de Russie. On l'entendra le 10 mai à Berne, le 12 mai à Lucerne, dans un programme Rachmaninov et Tchaïkovski. Puis le 11 mai à Zurich, le 13 mai à Genève, programme Rachmaninov et Rimsky-Korsakov. Toujours en Suisse, au mois de juillet, c'est un peu plus loin quand même. On aimerait bien y être au Verbier Festival. Anna Segalevitch.
Oui, je voudrais juste ajouter que Martin Mirabel a réalisé un documentaire sur Lucas de Barque, voilà, qui va sortir bientôt, je crois, en DVD.
Et que Laurent Burry regardera en boucle. Alors, d'abord un rectificatif, parce que Laurent Burri n'a pas toujours tort. Il lui arrive parfois de dire des choses sensées.
Parfois.
Même quand il me contredit, parfois. Réécoutez la saison passée. Là, cette fois-ci, vous avez raison. On n'a pas le même plateau vocal pour le Macbeth Underworld à l'Opéra Comique, puisque ce ne sera pas la même Lady Macbeth. On n'aura pas le même chef et pas le même orchestre. L'orchestre, on s'en doutait. Le chef non plus. Donc, il y a cette captation en ligne sur le site de La Monnaie, avec tous ceux dont on a parlé. Et il y aura une proposition différente de la même production, hein, quand même, de cette production, cette création d'opéra à l'Opéra Comique. Ça, c'était pour la précision et le rectificatif. Le coup de cœur d'Anna Sigalevitch. On reste avec le piano et on reste avec Anne Kefedek, qui ne s'est pas mise au clavecin.
Mais non, qui a d'ailleurs son premier disque, c'était des sonates de Scarlatti, et c'est un très très beau disque aussi, on ne l'a pas cité. Mais j'y pense maintenant, c'était très
beau. Chez Mirard, et des sonates pour piano de Mozart, lesquelles ?
Köchel 331, 332 et 333.
Est-ce que vous voulez qu'on entende d'abord un extrait ou est-ce que vous nous en parlez, Anna Sigalevitch ?
Je veux bien qu'on entende, si possible, le deuxième mouvement, l'adagio de la sonate en fa majeur.
Absolument. Il fallait bien
couper.
Mais il vous reste une minute trente,
très bien. Alors, donc, Anne Kefedek est une grande mozartienne, même si elle a enregistré peu de disques Mozart. Elle a enregistré un disque avec quelques sonates, rondos et variations et fantaisies. Elle a enregistré un disque en 80. Voilà, parlons de celui-là, qui est, je trouve, un très très beau disque, parce que c'est un Mozart de la maturité. C'est un Mozart où il y a donc ces sonates que je 331, 332 et 333, mais qu'elle joue à l'envers. Et là, on entend la sonate, donc l'adagio de celle en fa majeur, qui est une sonate de toute beauté. Et ce qu'on sent, je trouve, dans ce disque, c'est qu'il y a de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une gravité et il y a la reconnaissance de la beauté d'une telle musique. Donc, on a toujours cette précision digitale très grande, cette grande rigueur, cette grande élégance qu'il y a chez Anne Kefedek. Mais je trouve que là, on a quelque chose qui est assez nouveau chez elle, qui est un certain épanchement, elle s'adresse à l'auditeur, elle est profondément heureuse de jouer ses sonates, et elle est profondément heureuse de les transmettre. Donc, il y a une tendresse, une humanité qui est particulière. Moi, c'est un disque vraiment qui m'a profondément touchée, j'ai entendu beaucoup d'autres choses magnifiques chez elle, mais là, c'est une couleur nouvelle, et il y a quelque chose d'humain et de fraternel qui est très très beau, d'une grande beauté.
Ce disque est sorti chez Mirard, des sonates pour piano d'Anne Kefedek. Alors, si vous voulez, le 26 octobre, on va faire un grand mix à l'auditorium de Radio France. Il y fera un programme Scarlatti. Un café comme ça. Toute la boucle sera bouclée. Le 14 novembre à Agen, ce sera un programme Schubert, Liszt, Mozart. 28 novembre à Liège, un programme Beethoven. Et puis le programme des sonates, notamment la 333 et la 331, le 13 décembre à Bruxelles. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec David Danak nous a rejoint pour nous rappeler dans un premier temps la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, David.
De combien de personnages est composée la communauté de l'anneau? Et la réponse est 9.
Là, on parlait de Tolkien, hein, si j'ai bien compris. On fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Prison au-delà des murs. Ça se passe au Musée des Confluences à Lyon. Ça vient d'ouvrir, ça se poursuivra jusqu'au 26 juillet 2020. Quelle est la question, David?
Quel est le coût moyen d'une journée de détention en France?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lou Quevauvillier. Lucille Como, Boris Pino, Jean-Christophe Brianchon, David Dana, prise de son ce soir, Jean-Frédéric, réalisation Alexandre Fougeron. Demain à 19h, une dispute art plastique. Je serai avec Corinne Rondeau, Frédéric Bonnet et Sarah Hiller-Meyer pour parler d'exposition consacrée à Félix Fénéon au musée de l'Orangerie, le futur ancien fugitif, une scène française au palais de Tokyo. Et puis il y aura un journal de la dispute ouvert par Jean-Christophe Brianchon à la page Prix Marcel Duchamp.